France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Naïla Kadoboudadi, Isabelle Moitier, Mabo Jean de la Tom Malvetti, Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invitée, Mademoiselle Brigitte Fossé.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Bienvenue Brigitte, ravie de vous accueillir. Tout va bien ?
Très heureuse de vous voir.
Ravi. Nous allons évoquer l'histoire de Moby Dick, cette lecture que vous faites exceptionnellement. 11 représentations, ça a déjà commencé lundi. C'est tous les lundis à 19h au Théâtre de Poche, à Montparnasse. Cette histoire que j'ai redécouverte grâce à l'adaptation, ou au choix en tout cas que vous en avez fait de cette lecture, avec donc cette vengeance qui va
de ce capitaine
qui va aller jusqu'au bout. Alors, la vengeance, comment gérer ce sentiment de vengeance, Emma Beaujean? Parce que t'as fait la tête dès que j'ai posé la question. J'ai vu ton sourire.
Parce que c'est un vrai truc que je me questionne sur. Je crois que ça fait un peu partie de devenir adulte, de pas se venger et d'accepter. Mais en même temps, j'arrive pas à donner mon pardon quand on m'a fait de la peine. Donc je sais pas si.
C'est pareil.
Oui, non.
Pas pardonner,
pas
se venger.
Ouais, mais du coup, je crois que je me venge. Enfin, je travaille vraiment dur dans ma tête pour pas me venger.
Mais t'as envie.
Mais j'ai très envie. Et ma maman me disait que elle, quand elle était à la fac, une fois, quelqu'un s'était vraiment pas bien comporté avec elle. Et du coup, elle a fait pipi dans une assiette en carton, elle l'a mis au congélateur. Les disques de pizza, je me permets, hein. Je te cite ma moulette, tout ce qu'elle m'a appris.
J'adore.
Et hier soir, une copine m'a dit qu'avec du colorant, c'était encore plus efficace parce que ça tâche la moquette. Voilà. Moi, je le ferai pas, mais si jamais vous avez besoin de voilà.
Lisa Del Moitier, quel est ton rapport avec ce sentiment de vengeance?
Alors, l'urine, on a une heure?
Non, avec Brigitte Fossé.
Dignité. Non, moi, oui. je me venge avec une extrême gentillesse.
C'est pire.
Ouais, je termine un peu peut-être la relation en étant extrêmement gentil.
Trop gentil, tu veux dire.
Ouais, et que la personne n'arrive plus trop à m'attraper.
Tu donnes pas de prise.
Ouais. Mmh. Et ça marche aussi.
C'est chelou parce qu'elle est très gentille avec nous, donc ça veut dire.
Ouais, ça sent la fin, mon copain.
Faut se poser les bonnes questions.
Comment gérer le sentiment de vengeance? Parce qu'on l'a tous un peu en nous, quand même.
Rêvant. C'est-à-dire en imaginant ce que je pourrais faire. Ouais, et moi, je trouve que l'imagination, souvent, elle suffit bien, puisque c'est un peu terrible dans ces cas-là, à m'apaiser. Mm. Voilà, je me dis, tiens, oui, je pourrais faire ça, mais comme je suis un peu au-dessus.
T'as remarqué, Emma, on n'est pas du tout adulte, hein, autour de cette table.
Tom
Valdetti, tu te venges ou pas, toi?
J'ai très peur du conflit. Je ressasse comme sous la douche en pensant à ce que j'aurais pu ou dû dire.
Mais tu fais rien.
Mais sur place, non.
Ah, t'es une merde.
Mais non.
C'est
des mercredis matin plus agréable.
Venge-toi.
Mets-toi au ressaisir.
C'est Nagui qui va
te dire. Tu vas voir ce que je vais dire dans la douche.
Tanguy ?
Je ne me venge pas, jamais. Et en fait, les gens ne me font pas de mal. C'est-à-dire que j'ai pas de vengeance à exercer, puisque réellement, tout le monde est plutôt gentil avec moi.
T'as pas de contact avec les gens ?
Non, oui, mais très peu déjà. Et puis non, vraiment, j'ai pas de vengeance à appliquer. Je suis désolé.
Moi, je ne me venge pas parce que c'est la vengeance ronge encore plus de l'intérieur que la douleur fait.
Ah ouais, voilà.
C'est de
là, on est dans
quelque chose. Non, mais je l'ai vraiment expérimenté.
T'as écrit une chanson, toi ?
Je zappe la personne, mais je ne me venge pas.
Non, mais personne n'est très honnête, en réalité. Il y a eu vraiment des vengeances.
Vous voulez de la méchanceté, vous allez en avoir aussi. Daniel Morin, comment tu te venges, toi ? Je suis sûr que tu te venges.
J'ai fait tuer une ex.
Voilà, parce que t'avais quitté.
Il fallait faire attention.
Et donc ça s'appelle autre chose.
Ah non, moi, je suis hyper rancunier, moi.
Ah bon?
Oui, mais ça veut pas dire pour autant.
Oui, c'est ça.
Moi aussi, je le suis.
Alors, oui, moi aussi. Je suis très rancunier.
Je fais une réputation détestable à la personne. C'est horrible.
Alors,
si la personne est plus petite que moi, je la frappe.
C'est ça.
Moi, je suis comme toi. Je suis rancunier. Le seul.
Tu es rancunier.
Je suis rancunier. J'ai de la mémoire. Mais je suis d'accord avec Emma aussi. En grandissant, tu arrêtes de dire je vais pas me venger, je vais pas aller rayer la voiture du mec qui m'a emmerdé. Donc, je crois beaucoup, moi, au karma. Je me dis, celui qui s'est... met plus ou moins... C'est mal indiqué, des fois, le karma met plus de temps que prévu.
Ouais.
Mais je crois vraiment qu'il y a une espèce de retour de manivelle qui fait que les gens qui méritent un... À un moment, ils doivent
passer
être...
à la caisse.
Ouais, mais pas par moi.
Il faut avoir beaucoup de temps.
Pas
moi.
Mais ils passent la caisse de la
c'est
vie. Quoi.
C'est la vie. Ouais,
avoir beaucoup de temps devant soi. Ouais,
ouais. Après, il y a une autre solution. C'est en
le
effet.
Coup de matraque.
Non, c'est de prévenir. C'est-à-dire quand quelqu'un est nocif, quand quelqu'un s'est mal comporté, de dire le plus possible aux gens, méfiez-vous de cette personne parce que elle se comporte comme ça et d'éviter que ça se reproduise chez les autres.
Même quand elle a rien fait.
Brigitte Fossé, la vengeance est quand même au cœur de cette histoire de Moby Dick. Comment vous gérez ce sentiment de vengeance? Est-ce que ça vous traverse l'esprit ou pas?
En fait, ce qui était intéressant, c'est que chez le capitaine Ahab.
Non, mais je ne parle pas de Moby Dick,
je vais me comparer au capitaine Ahab, très modestement.
Bien sûr, tu as raison.
Qui devient aveugle.
Chez le capitaine Ahab, la vengeance est une obsession, parce qu'il est blessé dans son orgueil.
Et dans sa chair.
Et dans sa chair, qu'il a perdu donc une jambe. Et c'est un homme qui n'accepte pas ça. Il vit ça un peu comme si c'était... Une fatalité, comme si c'était Dieu qui l'avait agressé. Donc, il devient fou parce qu'il n'arrive pas à rattraper sa jambe, ni Moby Dick, qui est donc la responsable.
Qui est un cachalot, parce qu'on n'a pas, dire baleine, mais cachalot.
Et un cachalot blanc, donc.
Oui, mais vous, Brigitte Fossé, vous, quand vous avez un sentiment d'avoir été blessé, d'avoir été moralement heurté ou quelqu'un vous a agacé, est-ce que ce sentiment de vengeance vous traverse l'esprit? Vous dites je me compare à Moby Dick ou au capitaine Ahab. Oui, pardon, capitaine Ahab. Jusqu'où iriez-vous? Que faites-vous quand vous avez ce sentiment-là qui vous passe par l'esprit?
Moi, je fais ce que faisait Napoléon. Dans certains cas, le courage, c'est la fuite.
Ok, le mépris.
Je disparais.
Ok.
Je suis comme vous. Je vais pas changer mon comportement, mais on va plus. Je vais plus jamais rencontrer cette personne.
Oui. D'accord. Ok. Vous protégez.
Je vais bien me débrouiller.
On parle de Moby Dick, donc d'Herman Melville avec Brigitte Fossé, qui est notre invitée au Théâtre de Poche 11. Enfin, il en reste plus que 10 d'ailleurs. Représentation exceptionnelle les lundis à 19h. Voici Hold de la Fan de Brigitte Fossé. Oui.
Je suis fan de Brigitte Fossé. Quand je vous vois, mon cœur fait boum. C'est vrai, pour vous le cinéma c'était d'abord un jeu d'enfant, même s'ils étaient interdits par René Clément. Et vous êtes là pour nous parler de Moby Dick. Voilà, je crois que c'est un roman qui parle d'un Moby Dick. Le stylo d'Herman Melville qui marchait pas bien. Il dit c'est assez, je sèche, je jette l'encre demain. Quel esprit. Un grand auteur. Je suis fan de Brigitte et puis de ce roman qui vous harponne et vous poursuit longtemps, comme une chanson de McCartney et de Lennon, ou le vieil air d'une bonne sœur qu'aurait connu Lennon. Moby Dick s'en allait tout simplement sur tous les océans. Un cétacé mystérieux qui rendait Ahab furieux, qui rendait Ahab furieux. À l'époque où pour sa chair on faisait n'importe quoi, Moby Dick bien vénère, qu'on m'a dit Ahab deux fois. Moby Dick s'en allait tout simplement sur tous les océans. Oui, c'est pas une baleine bleue, elle est blanche et c'est tant mieux. Elle est blanche et c'est tant mieux. Devenu illégambiste sur un pied, à câble à suit, il aperçoit Moby Dick qui se cache à l'eau, youpi. Oh, Moby Dick s'en allait tout simplement sur tous les océans. Viva Diane Fossebs et les primates, et Brigitte les baleines plates, et Brigitte les baleines plates. Je suis fan du roman, c'est même celui que je préfère, et c'est tellement bien, une histoire de Melville en mer. Nagui s'en chante tout autant que les lacadous. Vous êtes nos invités, notre invité vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec, et qui ça, la bande originale.
De l'air sur scène ce soir, à côté de chez Leïla, à Saint-Benoît, vendredi, à Bonchamp, Les Laval, et pour Saint-Grégoire, faudra attendre samedi, c'est bientôt.
Herman Melville en mer, bon, ça c'est fait. Moby Dick, quel est le moteur de votre choix, de votre adaptation, parce que vous avez aussi adapté ce
pour
texte.
Pour le théâtre.
Pour le théâtre, oui.
C'est pas une adaptation littéraire destinée à être publiée.
Non, c'est une lecture, en
voilà,
plus, oui.
C'est ça. Mais comme ça fait 800 pages et que oui. Stéphanie Tesson, qui m'a fait confiance, m'a demandé que ça dure une heure, il fallait bien que je, malheureusement, je me passe de beaucoup de choses et c'est vraiment dommage parce que c'est un roman qui est tellement passionnant, mais c'est vraiment, c'est une aventure, c'est un roman d'aventure, mais en même temps, on apprend beaucoup de choses sur les baleines, sur l'océan.
Et sur la nature humaine.
Sur la nature humaine, ouais, et ouais. Surtout sur cet équipage, qui est de toutes les cultures, et surtout son ami Kike, qui est d'origine cannibale, et qui vient, parmi la chrétienté pour, essayer d'améliorer le sort des cannibales et de les rendre plus heureux.
Et il se rend compte que...
Et à partir du moment où il arrive à Nantucket et où voit la vie des marins, il dit, bon, c'est foutu.
C'est pas terrible.
Tant pis, je resterai comme je suis. Mais nous, les cannibales, nous pouvons faire quelque chose pour ces chrétiens.
Mais vous voulez raconter l'histoire de ce capitaine Ahab depuis longtemps ?
Pour moi, c'est pas l'histoire de capitaine Ahab, c'est l'histoire d'Ismaël, en fait. C'est-à-dire que...
C'est le narrateur, d'ailleurs.
Non, c'est tout. Pour moi, je crois beaucoup, comme Melville, au destin, je crois à la providence. Je crois, comme Einstein, que le hasard, si vous voulez, c'est la manière dont Dieu joue à cache-cache. Et en fait, je fais souvent des lectures l'été dans le sud. Ils aiment beaucoup ça. À la Villa Ifroussi, chez Muriel Mayette, ou dans d'autres endroits. Et une année, on m'a fait lire Le vieil homme et la mer. Comme j'étais au bord de la mer en le faisant, j'étais passionnée. Et l'année d'après, on me demande, qu'est-ce que vous voulez lire cette année? Et alors là, je me suis entendue dire Moby Dick. Parce que j'avais éprouvé tellement de bonheur à lire Le vieil homme et la mer au bord de la mer, et que je lis Moby Dick.
Je vais rester dans l'eau.
Et je ne l'avais jamais lu, parce que souvent je dis que je veux lire des trucs que j'ai jamais lus parce que ça me force à travailler.
Oui.
Et ça me force à apprendre. Oui.
Et être plus
ça arrive
fraîche
tout le temps.
Dans votre,
et à découvrir plus... en même temps.
C'est ce que j'allais dire, donc à garder cette fraîcheur.
Oui, un étonnement, une capacité d'étonnement. Enfin, en fait, je retombe en enfance où j'ai fait des études littéraires et j'ai l'impression que je suis à nouveau à propédeutique en train de dire, alors voilà, maintenant, il faut que je le rétrécisse. Mais alors, pour le rétrécir, il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir parler de l'huile de baleine qu'on trouve dans la graisse de spermaceti, en massant comme ça, et ça fait après des produits formidables pour la peau, comme Embryolis et tout ça? Ah non, il ne faut pas faire
de marque.
Ou alors, est-ce que je parle uniquement des conflits entre les marins, la manière dont ils sont maltraités, parce que c'est aussi un film
social.
Social et politique. Parce que, évidemment, Melville est démocrate et c'est le moment où on passe de la période agraire en Amérique à la période industrielle. Et donc, la baleine bat son plein. On chasse la baleine, on l'exploite, on gagne. Mais des fortunes, les armateurs se battent. Il y a, je ne sais plus exactement le nom, mais vous regarderez dans Wikipédia, je pense qu'il y a à peu près 12 000 bateaux, 12 000 baleiniers à l'époque. Et Melville trouve que c'est dommage, parce que, en fait, à l'origine, ce sont les aborigènes et les peaux-rouges qui chassaient la baleine. Et il explique, c'est une chose fabuleuse, mais moi je ne peux pas raconter ça dans la pièce, malheureusement. Donc heureusement que je viens vous voir. Mais il explique, c'est une chose fabuleuse, c'est que, en fait, ce sont les sauvages, c'était des vrais sauvages, ce qu'on appelle des sauvages, c'est-à-dire des gens qu'on n'a jamais vus du côté de Cap Cod. C'était pas au moment où le président américain allait passer ses vacances à Vineyard, mais c'était juste à côté. Et il y a même un marin de Vineyard, d'ailleurs, sur le PECO. Et il explique que, en fait, c'est dommage parce que c'est un peu contemporain comme sujet, parce que la société américaine, elle a pris des terres,
yes, expansion.
Où se trouvent tous ces barbares pour pouvoir justement les coloniser.
Oui, c'est ça.
Surtout quand elle a pris qu'il y avait la richesse de la baleine et de l'huile de la baleine. Et moi, je suis du côté de Paul Watson. Hein. Je suis pas du côté d'Ahab. Lui, il adore les baleines aussi.
C'est formidablement, c'est tristement d'actualité quand on voit la manière dont les États-Unis veulent reconquérir des terres aussi et s'approprier le Venezuela, le Groenland et la Colombie et Cuba et tout y quanti.
Et donc j'ai appris énormément. Par exemple, une baleine, c'est extraordinaire. Ça ne voit pas devant soi. elles ont deux yeux là sur les côtés, et si vous les abordez avec l'embarcation de face, elles ne vous voient pas. Donc elle passe son temps à se tortiller parce qu'elle est très intelligente pour voir si elle rate rien. Et c'est ce que fait à un moment donné à Cap d'ailleurs.
Parce qu'il y avait énormément de baleiniers aussi dans un moment de l'histoire. C'est ça ?
Oui, c'est ça. C'était le moment où il y avait le plus de baleiniers. Et c'était, en fait, ça devenait de l'industrie. C'était la bascule de l'agriculture à l'industrie.
Je me demande si... on ne va pas revenir sur le projet de la lecture au théâtre, mais vous racontez tellement bien l'histoire que, à la limite, il vaudrait peut-être mieux que vous racontiez Moby Dick plutôt que de le lire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, vous rajoutez des commentaires et presque une explication.
Mais c'est ce que
de
m'a
texte.
Demandé Stéphanie Tesson, justement, qui me reçoit. Elle m'a dit, il faut faire des commentaires, tu t'interromps au milieu, mais il ne faut pas que ça dure plus d'une heure.
Mais vous le faites un peu. Non, mais il y a quelques apartés.
Vous savez,
mais
une heure. Oui, quelques apartés.
Pas énormément. Oui.
Mais comment vous le savez, ça?
Parce qu'on a découvert votre texte.
Vous croyez? Mais qu'est-ce que vous croyez? Et on va en parler jusqu'à midi et demi. Moby Dick, interprété.
Mais après, je vous donnerai, si vous voulez, l'essence même de la vision d'Ismaël, qui est à la fois l'écrivain qui part en aventure, mais qui part en aventure intérieure.
Alors, on va d'abord évoquer Moby Dick vu par Lisa Delmoitier. T'aurais pas fait ça comme ça, Lisa?
Non. Non. Et pour la simple et bonne raison qu'on ne touche pas à mon livre favori. Voilà.
C'est vrai?
Ouais, je vais vous dire, Moby Dick fait partie du top 3 de mes romans préférés. Ah. Que je fais semblant d'avoir lu depuis 30 ans.
Ah, voilà.
Il est à égalité avec Léo de Hurlevent, Germinal et Confession d'une héritière, l'autobiographie de Paris Hilton. Non, je déconne quand même.
Celui-là,
je l'ai
lu. Top 3 avec 4.
Mais bon, ça va. Je vais me venger, les gars. Dans l'autobiographie de Paris Hilton, ça, je l'ai lu. Le passage où son chihuahua meurt.
Oh, putain. Rest in peace, Tinkerbell.
J'aime bien les milliardaires américains comme Paris, moi. Ce qui t'encule, mais au moins, ils sont divertissants. Ouais, c'est vrai. Enfin, pas Italien. Bon, je sais pas. Non, alors que les nôtres, ils se gavent d'avantages fiscaux, mais ils sont même pas rigolos. Mm. Les Kardashian, elles se filment en train de se tirer les cheveux. C'est trop bien. J'attends toujours la vidéo des Bolloré qui s'arrachent les faux ongles. Vous savez que d'après Oxfam, Bernard Arnault a dépassé le taux de CO2 normalement relâché pour tout 2026 depuis le 1er janvier. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est sûrement pareil pour Kylie Jenner, mais au moins, elle, en le faisant, elle se tape Timothy Chalamet. Voilà. Il a détruit la planète et il a des sens de nous divertir. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que j'ai lu le bouquin des Hilton, mais j'ai jamais lu Moby Dick, donc merci Brigitte Fossé de nous en faire la lecture. J'ai pas encore ouvert ma déclaration d'impôt non plus. Si vous pouvez nous parcourir ça en diagonale vite fait, ça m'arrangerait. Merci. Je suis pas fière et en même temps... Je sais que je ne suis pas la seule à mentir. Voilà donc quelques conseils pour faire croire aux gens. Ah, vous êtes lettrés, alors que vous confondez encore le journal de Bridget Jones et celui d'Anne Frank.
Oh mince.
Premier conseil, lisez un résumé, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Pour être crédible, il vous faut une opinion. C'est pourquoi je lis toujours quelques commentaires en ligne que je m'approprie ensuite. Ainsi, à propos de Moby Dick, @chaisevg nous dit « Oui bon, sur 700 pages, on va dire que la partie intéressante couvre les 50 dernières. » J'en conclus donc que Brigitte, vous n'êtes pas @chaisevg sur Internet. Et chaisevg de poursuivre, le reste du bavardage, une analyse datée sur les baleines. Datée. Ça verrait donc qu'il y a une mise à jour sur les baleines depuis. Et c'est vrai, on est aujourd'hui, Dieu merci, à l'ère du body positivisme. On ne dit donc plus de Moby Dick qu'il est une baleine, mais un poisson avec des formes. Hein, chez le chirurgien, je lui ai dit « je veux le cul de Moby Dick », ok ? SVG conclut, sinon dans le livre, il y a un mec qui s'appelle Starbuck, qui ne sert pas de café. Voilà, une petite touche d'humour, ça fait toujours plaisir. Petite touche d'humour qui m'emmène à mon troisième conseil, retenez un fun fact sur le livre, une anecdote qui épatera la galerie. Le saviez-vous ? Le cofondateur de la célèbre chaîne de restaurants de café a vraiment tiré son nom d'un personnage de Moby Dick. Alors il n'a pas littéralement appelé son resto Moby Dick, ça c'était déjà pris par le nom de la sextape du chanteur Moby. Moby Dick, comprenez. Mais en effet, personne fait rire. Mais en effet, donc du personnage nommé Starbuck. À la base, il voulait l'appeler Picode, du nom du navire dans le roman, mais le directeur créatif de Starbucks l'en a dissuadé. Pour un restaurant qui va te verser du café, un nom avec pi qui veut dire pisser dedans, c'est pas l'idéal. Ouais. C'est comme si j'appelais mon restaurant de viande de bœuf le Vomicui. Non. Pas faire ça. Enfin, dernier conseil. Oui, bon, voilà, c'est pour de l'air. Enfin, dernier conseil, prouvez que le livre vous a impacté. Par exemple, après la lecture du livre de Melville, affirmez qu'elle a réveillé en vous une passion pour les baleines à sperme. interruption de notre programme pour me faire passer un IRM et évaluer combien de blagues circulent dans mon cerveau au moment précis où j'ai prononcé le mot baleine à spoon. Donc je vais m'arrêter ici avant de pénétrer dans Beaufland. Mais merci Brigitte de nous initier à ce grand classique. Grâce à vous, je serai un peu moins con, un tout petit peu quoi.
Merci Lisa de Poitiers, bravo. Alors, vous avez bien teasé sur la suite, Brigitte Fossé, c'est-à-dire la vision d'Ismaël oui. dans Moby Dick. C'est lui qui ouvre d'ailleurs et qui se présente dès le début.
Exactement. En fait, c'est à l'époque où il va l'écrire, il est instituteur, il est très jeune, Melville, l'auteur. Et puis au bout de 3 ans, donc, il s'installe dans une maison alors qu'il a déjà écrit 4 livres. Et qu'il a déjà beaucoup voyagé, et des livres inspirés de ses voyages. Et il en a marre, il a envie de vivre une aventure très forte, un peu comme fait Sylvain Tesson. Quand il part à l'aventure, il la vit de manière intense, et sur le plan de la découverte de la beauté de la nature ou de ses mystères.
Et physiquement.
Et oui. Physiquement, dans l'épreuve, et ça devient une œuvre. Et c'est extraordinaire, ça. Et Melville fait partie de ces grands témoins de l'univers. Ce sont à la fois des gens qui sont des historiens, puisqu'ils parlent de cette mutation vers la baleine, l'industrie, tout ça, et qui sont en même temps des visionnaires, qui voient, qui prennent un peu de recul sur la planète, et qui voient ce qui se passe, quel est le grand changement. Et quelque part, le grand changement, c'est que, actuellement, pour moi, on est en train de basculer dans une notion de violence et de vengeance qui nous étreint sans qu'on se rende compte. On vit un moment où on accuse tout le monde, où, si vous voulez, les médias deviennent des accusateurs et la justice n'est plus la justice. On vit une espèce de régression où on est tous dans la jungle ou, comme dirait Sartre, dans la mare aux batraciens. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que aujourd'hui, on n'a plus d'idéal, on n'a plus d'utopie. C'est l'utopie qui fait rêver. C'est le rêve inaccessible qui fait conquérir le monde et qui fait grandir l'âme. Et c'est le fait de maîtriser les épreuves qui vous font devenir un héros. Mais à partir du moment où les épreuves vous jettent dans l'obsession de la vengeance et de la destruction, vous débouchez sur la mort. Et c'est ça qui est très intéressant dans la quête de cet écrivain, c'est qu'il va s'incarner dans un jeune matelot qui ne connaît pas le monde et qui veut le découvrir. Et je trouve que les deux phrases qui révèlent vraiment ce qu'est Moby Dick, c'est « Je voudrais savoir ce que pêcher à la baleine veut dire et je veux voir le monde ». Et il y a toujours ce double mouvement de voir la réalité, qui est une réalité très cruelle, avec du sang. C'est affreux, la pêche à la baleine. C'est horrible, il n'y a rien de pire.
C'est une torture. Même.
Une torture. Oui. Mais à côté de ça, il y a ce besoin de voir le monde dans sa globalité, comme le faisait d'ailleurs très poétiquement et très cosmiquement Hawthorne, qui a beaucoup inspiré Moby Dick. Alors, si vous voulez, on ne sait pas exactement à qui on a affaire. J'adore Ismaël, parce que il est comme vous, il est à la fois un clown, il parle de la réalité avec un côté comme ça, complètement décalé, il comprend beaucoup mieux les peaux rouges et que ses contemporains et qu'à Cab. Parce que le peau rouge, lui, au moins, il est direct. Il n'est pas perverti par l'orgueil. Et en même temps, il est un philosophe. Et puis, il est surtout complètement amoureux de la mer. La mer, pour lui, c'est tout. Il y a une scène quand il arrive dans les îles Bashi, quand on arrive enfin. Parce que pour moi, c'est en même temps une lecture et du théâtre. Parce qu'il y a la récitation, puis il y a les moments où on voit les scènes entre Akab et Starbucks et la rencontre d'Ismaël avec Kikeg, qui est en fait qui arrive avec une tête réduite dans la chambre quand il débarque à Bedford. Donc, si vous voulez, bon, je m'en mêle, mais le livre est emmêlé aussi, c'est-à-dire que c'est la vie, quoi. Dans la vie, il y a tout.
C'est-à-dire que dans un corps, il y a la beauté, des yeux, la beauté de l'âme, la beauté de l'esprit, et puis il y a la tripe. Voilà. Alors il y a tout. Il y a la tripe du monde et la beauté du monde dans ce livre. J'ai été, mais complètement prise, bouleversée. Je suis tombée amoureuse.
Donc c'est une aventure. C'est une aventure
je
humaine.
Je suis envoûtée. Voilà. Je suis envoûtée.
C'est une aventure humaine.
Possédée même.
Qui nous fait comprendre.
Bravo.
La nature de l'homme et quand vous dites, et c'est là où on se rend compte finalement que les choses n'ont pas beaucoup évolué dans cette nature-là, c'est-à-dire de vouloir régir, imposer, décider, tuer pour des intérêts industriels, coloniser sans se soucier de la nature humaine.
Et aussi la prise de pouvoir sur les âmes. Et là,
je préciserai qu'une chose sur les médias dont vous parlez, oui. Certains indiquent une opinion, veulent faire passer des idées et s'érigent en juge. Pas tous les médias, heureusement, mais c'est vrai que c'est une tendance d'être dans le jugement immédiat, d'une manière très manichéenne, où on est d'un côté, où on est de l'autre. Il n'y a plus de juste milieu.
Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, dans ce roman, c'est qu'il y a une recherche perpétuelle. Il se remet même en question, lui, quand il observe les choses. Il dit je ne suis pas un scientifique alors qu'il raconte tout sur la baleine et il raconte tout sur les peaux rouges, les aborigènes. Comment...
Là, vous parlez d'Ismaël encore. Hein.
Oui, c'est ça. Mais Ismaël, c'est Melville. Hein. C'est Melville qui raconte l'histoire et c'est
Ismaël. Et qui s'approche donc de ce capitaine Ahab et qui l'observe dans sa volonté de presque de risquer sa propre vie par vengeance, encore une fois, de retrouver cet animal qui l'a meurtri, qui l'a blessé, qui l'a agressé.
Et celle de son équipage, en plus.
Mais voilà, il met tout le monde en péril dans sa folie.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un...
En fait, c'est Trump.
C'est un homme séduisant, c'est un homme qui charme tout le monde.
Ahab ?
Et oui, parce qu'il est très beau et que, en fait, d'ailleurs, quand il s'embarque, le capitaine Peleg lui explique que, avant d'avoir été bouffé par la baleine, avant d'avoir été amputé, c'était un homme intègre. Oui. C'était un homme, un grand monsieur, un grand capitaine. Il n'y avait pas meilleur capitaine, et pour les hommes, et pour le navire, et pour la navigation.
Donc quand vous racontez, pardon, ces morceaux choisis...
On va y venir à la vengeance, on va y venir.
Non, mais vous le vivez.
Ah ben je le vis.
Comme un roman, comme une histoire que vous racontez à des enfants, où vous vous mettez à la place d'Ismaël.
Je me mets à la place d'Ismaël, je m'identifie à Ismaël. Parce que je suis fascinée par les gens, si vous voulez, comme Ahab, qui sont des gens qui ont du pouvoir... qui sont beaux et qui, à la limite, en deviennent fous. C'est-à-dire qu'ils oublient qu'ils sont des humains et ils veulent avoir l'ascendant sur la jeunesse. Ils veulent être des guides. Ils veulent les mener, en fait, vers la mort. Et donc, je suis fascinée par ce phénomène-là. Parce que moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune. J'ai connu une femme qui était très belle, qui m'aimait beaucoup et qui voulait me manipuler comme Ahab manipule son équipage. Pour que je fasse ce qu'elle voulait que je fasse. Elle voulait, c'était quelqu'un qui était à l'extérieur, mais qui s'était emparé de mon âme d'enfant. Et elle voulait absolument c'est une emprise, voilà, ça parle de l'emprise. Je suis fascinée par l'emprise. Je trouve que la jeunesse peut partir par moments chez des guides qui sont des guides de mort. Et parce qu'ils ont besoin d'admirer, en fait. Et comme
mais
ils
pardon,
sont...
mais revenez à votre propre histoire. C'est-à-dire que vous avez eu le sentiment que vous êtes rendu compte que cette personne vous manipulait.
Oui, mais c'est-à-dire que je me suis identifiée à Ismaël parce que Ismaël, à un moment donné, qui est un ancien instituteur, il le dit qu'il a été instituteur dans le roman, il est fasciné par la beauté d'Ahab. Il faut dire que c'est Gregory Peck dans le film de John Huston, donc c'est déjà, ça donne une idée. Et aussi par cette magie, parce qu'il s'empare des âmes, il les emmène dans un rituel de vengeance, et en fait, il dérobe l'âme des gens. Ils sont là pour gagner leur vie.
Ok, mais que vous a fait cette femme? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Non, mais c'était une femme qui avait beaucoup. Mais c'est pas intéressant. Ma vie, c'est pas intéressant.
C'est l'emprise, quoi.
Non, mais si, ce qui est intéressant.
Bah si, parce que la manière dont vous le vivez, au contraire,
donne
une dimension extrêmement particulière, parce que c'est plus du tout un roman, c'est du vécu. Et par
personnage
par
interposé.
Par écho à votre propre histoire, vous transmettez cette.
Oui, en fait, il y avait, je vais vous le dire très, très, très rapidement. Oui. C'était juste une demi-sœur de ma mère qui m'avait prise, qui avait pas d'enfant. Donc, elle voulait me guider absolument vers la vie qu'elle aurait voulu mener elle. Donc, elle voulait absolument que je fasse école d'interprète, alors que moi, je voulais être comédienne. J'ai commencé à faire cagne. Elle a voulu me détourner de mes études en disant que je devenais bas bleu. Et comme j'étais un peu tendre et gentille à l'époque, plus maintenant, je le faisais un peu pour lui faire plaisir, parce que c'est très extraordinaire ce que je vous dis là, je ne m'attendais pas du tout à vous parler de ça. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais pitié d'elle. Et d'ailleurs, Ismaël dit ça. Il dit que ce pauvre Akab, comme elle était un peu folle, parce qu'elle avait des crises de folie furieuse, par moments, elle prenait une opaline, elle lançait à la figure de mon oncle qui a failli en mourir. Elle m'a renversée, par exemple, sur le carrelage, sur la tête, et j'ai été m'enfermée à double tour dans ma chambre. Donc, elle avait vraiment des accès de folie, comme Akab. Et si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que elle m'avait emmenée dans cette espèce de monde, parce que c'était une terreur, une crainte, mais en même temps, je fomentais mon départ. Et c'est ce qui m'a permis de devenir complètement indépendante. J'en suis sortie, je m'en suis arrachée. Un peu comme Ismaël échappe à tout ça, parce qu'il surnage et il trouve la lumière. Et après, il dit, je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est ensemble et qu'on partage notre vie. Et que, voilà, on n'a pas besoin tout le temps de chercher le pouvoir, ou de chercher à être quelqu'un. C'est, voilà, j'en parle comme avec un peu de naïveté, mais il y a parce que.
Et avec beaucoup de passion.
Parce que je voudrais faire comprendre que cette aventure, c'est la baleine a le rôle principal, on disait toujours en répétant, c'est la baleine la star. C'est vrai que c'est la baleine la star. Parce que la baleine, pour Ismaël, au début, c'est la baleine blanche, la beauté, elle est fascinée, elle est fascinante. Il parle, elle est dans les mers du Sud, là-bas
on
c'est
sait
bleu,
pas où elle est.
On part tous, bah oui, c'est mieux cherche. Que le club méditerranéen.
C'est différent.
C'est mystique.
Justement, est-ce que vous en faites le mariage entre le ciel et la mer. Est-ce que vous en faites une relecture religieuse? Vous avez lu Saint-Augustin sur Seine, il y a quelque chose quand vous en parlez qui vous anime, qui semble dépasser le cadre de l'individu. Il y a quelque chose de presque spirituel. Ouais.
Mais on peut le lire comme ça, oui. Et c'est dedans d'ailleurs, parce qu'il s'est dit mot pour mot, Akab se prend pour Dieu. Mm. C'est-à-dire qu'il dit « je suis Dieu », mais en même temps, il a un
comme
culte
tout.
Pour le vent, parce que le vent, comme c'est tout. La liberté oui. qu'il échappe.
Comme tout capitaine sur un bateau. non, mais il est Dieu. Sur un bateau, c'est le Dieu, c'est le capitaine. Oui. Moby Dick, lu, interprété, vécu, vous
avec
l'avez compris,
passion.
Avec passion, par Brigitte Fossé, qui est notre invitée jusqu'à 12h30. C'est au Théâtre de Poche tous les lundis à 19h. Voici venir Tom Baldetti.
Oui.
Bonjour tout le monde. C'est un honneur de vous rencontrer. Vous jouez dans le film préféré de ma mère. C'est fou quand même. Dans le film préféré de toutes les mamans de ma génération, je pense. La Boum.
La Boum, oui.
C'est pas ça, non?
Si,
bien sûr.
Oh, putain, sinon je passe vraiment pour un film. Donc, c'est un film que j'ai pas vu puisqu'il est né en l'an 18 avant ma naissance. J'ai pas pu le voir. Vous êtes vraiment quelqu'un, quoi. Enfin, quand on est sollicité pour lire un extrait d'un livre sur scène, c'est qu'en général on a une belle carrière, quoi. Moi j'ai hâte qu'on m'appelle pour faire une lecture, mais je vois pas.
L'avenir.
Tom Baldetti fera une lecture du guide du zizi sexuel au théâtre du Châtelet.
C'est bien,
non, j'y crois pas vraiment, quoi. Pour ça, faudrait que je lise. Tu viens? Moi je lis pas assez, mais j'ai bien noté les conseils de Lisa pour y paraître, mais mon auteur préféré s'appelle TikTok, quoi. Je suis un peu le vilain petit canard de ma famille. Mon grand-père, ancien prof de philo, aujourd'hui écrivain. Ma sœur a fait canipocagne. Leur vocabulaire est beaucoup trop riche par rapport au mien, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont bilingues en français. Au repas de famille, je comprends rien. J'ai l'impression d'être un jeune garçon au père dans ma propre famille, quoi. quel luxe de pouvoir nuancer son vocabulaire, quoi. C'est élégant, même pour décrire quelque chose. Les gens de ma famille vont parler de quelque chose de Grenade, de pourpre ou de Bordeaux. Quand moi, je vais dire, bah non, c'est rouge, quoi. Bordeaux, c'est une ville, c'est pas une couleur. C'est quoi ta ville préférée, le Puy-en-Velay ou quoi?
Je t'adore, Rodolphe.
Il est bon, hein.
Non, mais lire, c'est sexy.
Quoi? Il est bon,
Rodolphe. Il est bien, Rodolphe. On l'a co-écrite, celle-ci. Lire, c'est sexy, il y a comme une arrogance. Alpha One, un de mes rappeurs préférés, il dit dans un de ses sons, je me la raconte comme les gens qui disent. C'est vrai qu'il y en a qui se la pètent. Bouquin dans la poche arrière, veste en cuir, petite moustache. Ça donne une allure. Je suis certain que font ça sans, certains que, pardon, je suis certain que ça, waouh, ça va?
Certains font ça sans même lire.
C'est ça que je voulais dire, quoi. Ils prennent n'importe quel bouquin, poche arrière, pour se donner un air érudit, quoi. Après, faut faire gaffe au livre qu'on prend. Je conseille pas Mein Kampf. Tout de suite, la veste en cuir et la moustache prennent une signification. Un petit peu différente, quoi. Le discours de certains lecteurs aussi peut être parfois agaçant. Un bouquin, le plus dur, c'est d'y rentrer. Après, on y planche très facilement. On dirait qu'il part d'une piscine, quoi. Excuse-nous, Léon Marchand de Maupassant. J'aurais adoré aimer lire, mais j'ai appris à lire en 2005. 2005, c'est une année où il y avait presque autant de Tamagotchi que d'élèves en France. À 6 ans, quand t'as le choix entre ouvrir ton premier bouquin ou ramasser le caca d'un animal imaginaire, le choix, il est vite fait, quoi. Ensuite, les seuls bouquins que j'ai lus, on m'a obligé à les lire. En fait, quand à 12 ans, on t'oblige à lire Le Rouge et le Noir de Stendhal, bah, ça donne pas forcément goût à la lecture, quoi. Si on m'avait fait lire L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter en 4e,
ah oui.
Aujourd'hui, je vivrais dans une bibliothèque, c'est sûr. On m'a récemment conseillé un livre que j'ai lu. Je l'ai majoritairement lu parce que c'est une meuf qui me l'a conseillé. Et quand il est question de drague, je peux aller très loin de ma zone de confort. J'ai déjà changé de continent pour une fille, hein. C'est pas un bouquin qui va me faire peur, quoi. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je sais pas si vous l'avez lu. Mais moi, j'ai tout lu, quoi. Je pensais pas que je pouvais. C'est le premier livre sans images que j'ai lu en entier, quoi. J'ai même pleuré. Je pensais pas qu'on pouvait pleurer en lisant. Moi, d'habitude, je pleure devant des vidéos de militaires qui retrouvent leur chien après des missions. J'ai emmené ce bouquin alors que j'étais en week-end à Édimbourg. En pensant ne même pas l'ouvrir, bah, j'ai tout lu en 3 jours, quoi. J'ai rien vu de la ville. Je pensais pas que le plus beau monument d'Édimbourg avait été écrit par Valérie Perrin. Phrase de lecteur, un peu, ça. Ça y est, je me la raconte comme les gens qui lisent. Merci de m'avoir écouté.
Bravo. Tom Baldetti, sur scène, en cuir, à Besançon le 22 janvier, à Salon de Provence le 27 janvier, à Nice le 29 et à Val d'Anast, ce sera le 30 janvier.
Et justement, la place de la lecture dans une espèce de génération à la Tom Baldetti ou des TikTokers et autres, nous recevrons Jacques Bronstein tout à l'heure, puisque c'est une journée consacrée aux écrans, à leur impact sur notre santé, et quelle est donc la place de la lecture? Certains lisent grâce justement à des écrans, mmh. Voilà, à des... d'ailleurs, ça s'appelle...
Des liseuses.
Des liseuses, ouais. Voilà. Ouais. Et bien nommé. Est-ce que les écrans aident ou pas à la lecture? On le verra tout à l'heure avec lui. Brigitte Fossé, notre invitée, il y a de la musique présente également dans ce spectacle, dans Moby Dick, dans cette lecture. C'est du Berlioz. Et la musique dans la vie de Brigitte Fossé, on va commencer évidemment... avec Gene Kelly qui vous a marqué. Alors, il y avait aussi... Forcément.
ACDC.
Qu'est-ce que j'ai souffert pour jouer ce morceau.
Ben, ceux qui t'écoutaient aussi.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est
il y a une guitare, Nagui, tu pourras peut-être...
jouer les Jeux Interdits.
Oui.
Ah, le diable.
Et Brigitte, en 51, vous êtes Paulette. Paulette, cette petite fille dans Jeux Interdits qui a perdu ses parents dans un bombardement en 1940. Vous êtes choisie pour interpréter cette jeune héroïne.
Toute gamine.
Ouais. Comment ce rôle arrive à vous, si jeune?
Pourquoi vous?
Oui.
Mais toute ma vie est un roman. Hein.
Alors racontez-nous.
Bah écoutez, j'ai combien de temps pour le faire?
10 secondes.
D'accord. Bon alors, ma tante, justement, c'était ma tante, cette dame, qui voulait orienter mon destin, lit dans le journal à Cannes, sous le Magnolia, René Clément cherchait une petite fille de 9 à 11 ans. J'en avais 5. Elle se tourne vers ma mère et elle lui dit, Marcel, s'il la voit, il va la prendre. Et ma mère lui dit, Morissette, écoute, maintenant ça suffit, tu vas en faire un singe savant, et il faut la laisser, elle est simple, et il faut pas faire ça.
Laisse-la grandir.
Et à ce moment-là, mon père, qui était cinéphile, passe en disant, René Clément, oh, formidable, la bataille du rail. À ce moment-là, ma mère qui allait tous les jeudis au cinéma avec mon père à Lille quand on habitait à Tourcoing. Mais Roger, on va quand même pas présenter la petite, c'est pas possible, elle est trop petite. Alors finalement, tout le monde se bat, mais moi on me demande pas mon avis, on me prend par les cheveux avec ma feuille de vigne, c'est-à-dire j'étais vêtue d'une feuille de vigne et d'un boléro, j'avais l'air d'avoir 3 ans et demi avec des tresses sur la tête comme ça. Et tu vas dans la Simca 5, on étouffe, 40 degrés, et on arrive en retard à Nice, à l'hôtel Rull, où était la convocation. Et on entre, et je vois, dans la salle du casino, parce qu'il y a le casino derrière l'hôtel Rull, je vois 50 petites filles avec un monsieur, et qui se retourne, et qui dit « Qu'est-ce que vous voulez, mesdames ?» Il me dit même pas bonjour. Et elles disent effrayés, les deux se dégonflent là. J'avais fait un pari, ils avaient parié 100 balles qu'il allait me prendre et ma mère qu'il allait pas me prendre. Alors elles étaient dégonflées. Elles disent mais c'était pour Brigitte. Alors il baisse les yeux, il dit ça, mais elle est bien trop petite, c'est un bébé. Là, franchement, ça faisait beaucoup. Alors à ce moment-là, sa femme dit. Elle était assise, on avait l'impression que c'était un petit peu son magicien, son Pygmalion. Elle dit « René, assieds la petite !» Elle dit « Mais enfin, Bella, tu vois bien que c'est un bébé !»« René, assieds la petite !» J'ai été dit « Assieds-la !» Alors alors viens ma petite, là, mets-toi en face de moi. Alors, il raconte une histoire, et puis, toutes les petites filles qui étaient là, elles étaient terrorisées. Elles avaient 11-12 ans. Et il dit « Qui a compris ?» Alors, moi, je dis « Moi, j'ai compris, parce que je n'étais pas du tout impressionnée. » Avec mes parents, on dansait, on chantait, on faisait du théâtre. Mon père était incroyable.
Peut-être que vous étiez plus naïve que ces filles de, justement, 9-10 ans.
J'avais pas peur, surtout. Je n'avais pas conscience que c'était important.
Quelle histoire.
C'est complètement... C'est vraiment une aventure.
Et je précise que Brigitte, à 5 ans, avait lu le scénario toute seule, puisque vous aviez appris à lire très jeune, je crois, à l'âge de 3 ans et demi, vous saviez.
Oui, oui.
La lecture, c'était déjà votre quotidien ?
Oh, la lecture, c'était déjà ma passion, oui. J'ai commencé par Le Lièvre et la Tortue, et les Fables de La Fontaine.
Qui vous a appris à lire ?
Vous lisez que des animaux, Le Lièvre et la Tortue, la Baleine, enfin, il y a un moment, vous avez lu autre chose.
Mais non, quand j'ai commencé, elle me parle de 4 ans.
Oui, j'essaie une blague, c'est pas grave.
Mais j'ai aussi lu Capi, fils de loup.
Voilà,
très bien. Ou La Fille de la Jungle.
Comme vous voulez.
Il y a des choses, non.
En 1960...
Bonjour.
Encore un animal.
Peut-être une nuit.
L'aigle noir.
Près d'un lac, je m'étais endormi.
Chanson dont on a compris tout le sens des années après, quand Barbara a raconté ce dont elle avait été victime, c'est-à-dire d'agression par son père. Vous avez choisi cette chanson, elle évoque quelque chose de particulier pour vous ?
Elle évoque aussi le fait que, je trouve que ce qu'il y a de pire, c'est de s'emparer d'un enfant. Et voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que Barbara, elle est comme Ismaël, elle en fait une œuvre d'art. Et Ismaël, donc, fait de l'horreur qu'il a vécue avec la mort de tous ces marins qui ont été tués à cause de la folie du capitaine et de son égoïsme et de son orgueil, surtout, il va en faire une œuvre. Et c'est ce qu'a fait Barbara. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que moi j'ai entendu dans ma vie au moment où justement on m'avait forcé à aller à Genève
pour l'école d'interprète.
Oui, alors que à ce moment-là, je voulais entrer au conservatoire d'art dramatique.
1967. Encore une bête de scène cette fois-ci. Elvis, That's Alright Mama. Et
quand on parle de livres, il y a le Grand Maulne. Qui ressurgit à cette époque-là, Grand Maulne d'Alain Fournier, qui était un livre absolument, qui était incontournable en fait.
Oui, je l'avais lu 2 ou 3 fois, et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de trouver ma liberté et de dire, j'avais 19 ans, c'était à l'époque, c'était difficile de dire à la tante, aux parents et tout ça, de dire, maintenant c'est fini, je quitte l'école d'interprète, j'entre au conservatoire. Parce que j'ai reçu l'aide d'Albi Coco, qui me demande d'interpréter Yvonne de Galet dans Le Grand Maulne. Et j'y ai vu comme un symbole poétique. Et il y a beaucoup de symboles dans le roman de Melville. Je me suis dit, voilà, C'est un roman, c'est la lecture qui va m'amener au cinéma. Oui. J'ai trouvé ça magnifique. Oui, oui.
La lecture, nous en parlons. Cette lecture à laquelle vous pouvez assister au Théâtre de Poche à Montparnasse avec Brigitte Fossé, donc, qui vous lit et commente également Moby Dick d'Herman Melville. La lecture sur les écrans, est-ce que ça existe? Est-ce que ça se prospère? Ça se répand de plus en plus ou pas? Ça se répand de plus en plus. Jacques Bronstein nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir à ce micro. Vous êtes rédacteur en chef de Livre Hebdo. Nous parlons, et c'est une journée consacrée justement à l'impact sur notre santé des écrans.
Journée France Inter crève l'écran.
Exactement, et qui se poursuivra tout à l'heure avec Mathieu Noël dans Zoom Zoom Zem et Fabienne Synthèse dans Le Téléphone Sonne. Les écrans, amis ou ennemis de la lecture?
Moi, je dirais quand même plutôt ennemi. Après, c'est compliqué parce que on va considérer, si vous achetez un livre d'art où il n'y a pas de texte, que c'est de la lecture. Et si vous lisez en entier Le Figaro et Le Monde sur votre téléphone, que c'est du temps d'écran.
Ah, alors, oui. Il y a les liseuses. Est-ce que c'est du temps d'écran?
Alors, les liseuses, en plus, on est dans une zone grise parce que c'est des livres, mais d'un autre côté, sur un écran.
Ouais,
maintenant, ce qu'on
bien.
Constate, mais c'est plus du bon sens que des chiffres, c'est que, grosso modo, c'est quand même rare que les gens se mettent à lire 3 livres par jour sur des liseuses s'ils ont pas été confrontés précédemment à des livres papier, à des bibliothèques, des librairies.
Pardon, 3 par jour, quand vous vous baladez, il vaut mieux l'avoir sur un écran. On a une bibliothèque sur un écran.
C'est ça qui arrive, c'est qu'effectivement, vous avez des gens qui consomment beaucoup de livres, parce que par exemple, moi j'ai une copine, elle lit un thriller par jour. Bon, à un moment, elle en a eu marre d'avoir des piles chez elle, et elle lit sur liseuse. Mais c'est parce que pendant des années, elle a lu des livres papier. Et on le voit aujourd'hui avec la nouvelle génération qui aime par exemple la romance. Elle découvre des auteurs sur Wattpad, sur des applications, communautés. Ensuite, elles les lisent quand elles sont publiées en liseuse. Et puis après, elles achètent les livres, voire les livres collector.
Oui,
ça, c'est plutôt bon signe.
Donc ça veut dire qu'on peut commencer vraiment par la liseuse. Nous, on est d'une génération, on a connu le livre
papier. Il semblerait, effectivement, dans la nouvelle génération,
Moi, c'est mon combat depuis des années. Quand je dis que je lis sur liseuse, on me regarde en disant « Oh, mais presque un peu snob, tu n'as pas le rapport charnel du papier. » Non, mais en fait, je lis...
Parce que t'es prof de français.
Non, mais ça aide, bien sûr, mais
jeunes femmes qui lisent de la romance sont filles de profs de français, elles ont pas lu beaucoup
de livres
à la maison.
Non, mais ça veut dire qu'en tout cas, le passage à la liseuse, il est possible et que c'est pas négatif l'écran de ce côté-là. Et moi, je vois en effet des jeunes femmes qui commencent à lire sur de la liseuse et on va pas leur dire que l'écran est mauvais. Au contraire, elles lisent, elles dévorent.
C'est un marché complémentaire. Oui. D'ailleurs, si on prend les chiffres globaux, les livres numériques, c'est 10% du marché du livre. Oui. Ça progresse de 4-5% par an dans un marché qui réduit de 2. Bon, grosso modo, parce qu'on va pas faire des règles de 3 à la radio, grosso modo, pour que ça représente la moitié du marché, il va falloir 30 ou 50 ans. Donc
ouais,
ça va. Mais effectivement, c'est un marché qui progresse.
Il y en a qui font les deux, hein, livre papier. Qui...
Alors, voilà, c'est
bien sûr. Il y a des livres qu'on achète en papier et d'autres qu'on veut lire sur liseuse.
Mais moi, j'ignorais l'idée de lire d'abord sur tablette numérique et après se dire j'ai aimé le livre, maintenant je vais acheter l'objet pour le garder.
Mais comme l'album de musique.
Ouais,
et les éditeurs aujourd'hui regardent sur ces communautés comme Wattpad ou Fanfiction et voient ce qui marche et leur proposent ensuite de publier des vrais livres.
Mmh. Est-ce qu'ils ont compté ces lecteurs dans les succès, justement dans les classements des livres?
Oui, bah ça, quand on a du succès, vous savez, on
n'oublie pas.
On appelle les organismes de contrôle pour dire dites donc, là, il faut aussi me compter mes exemplaires numériques.
Alors,
et c'est très différent d'ailleurs. Sur la romance, ça peut être 20, 30, 40%. Sur le prix Goncourt, c'est 1 ou 2%.
Alors justement, est-ce qu'il y a des styles qui se prêtent plus au numérique? Le livre d'art, j'imagine, on préfère l'avoir quand même dans un format plus grand et en papier. Et la bande dessinée, est-ce qu'elle existe sur...
Alors, la bande dessinée, il y a vraiment une révolution en cours. C'est que les Coréens ont inventé des sortes de mangas sur téléphone qu'on appelle des webtoons. Les Japonais s'y mettent, les Chinois s'y mettent, les Français s'y mettent maintenant. Ouais. Et alors, il y a un truc assez marrant parce que c'est totalement paradoxal. C'est que quand les Français ont reçu les webtoons, ils se sont dit si on en faisait des albums en papier, et les Coréens se sont dit mais c'est une idée ça, et maintenant ils en vendent en Corée.
C'est génial.
C'est comme la renaissance du vinyle en fait.
Exactement.
Ouais. Est-ce que vous encourageriez les parents qui veulent toujours limiter, moi le premier, leurs enfants à être sur les tablettes, à dire et si on mettait justement des mangas, des bandes dessinées, des livres sur les téléphones pour.
Moi, il me semble que. Mais c'est vrai. vraiment du bon sens.
Ça peut être une introduction à la lecture.
Il faudrait demander à Michel Desmurger, à Servane Mouton qui était sur votre antenne ce matin, qui sont neurologues, qui ont étudié ces choses-là très précisément. Moi, il me semble, par bon sens, que si vous avez un enfant qui connaît déjà l'univers du livre, pourquoi pas lire aussi sur tablette ? Moi, je lis énormément, puis je lis aussi des PDF, des livres que j'ai pas encore reçus, enfin, ce genre de choses. Si votre enfant lit pas, vous lui donnez un téléphone et vous lui dites « Regardez donc ce livre, il y a quand même de grandes chances qu'il soit sur TikTok en moins de 10 minutes.
Hein. » Bah,
oui, l'une des bonnes solutions, c'est de commencer à faire, comme Brigitte Fossé, la lecture d'un livre à son enfant et de lui dire « Si tu veux connaître la suite, t'as qu'à continuer. »
C'est de la maltraitance aussi.
Oui, un petit peu.
Ça marche, effectivement, c'est pas mal.
Et je le détache qu'après qu'il ait fini.
Je voulais ajouter une chose, en partie à cause de la lecture de Moby Dick par Brigitte Fossé, que ce qui marche le mieux et qui progresse le plus dans le marché du livre aujourd'hui, c'est le livre audio. C'est des dizaines de pourcents chaque année parce que les grandes plateformes musicales ont fait rentrer le livre audio très récemment. Et puis là, c'est plus des écrans ou de la lecture, c'est de la radio. Et donc, je vous repasse la parole.
Et justement, il y a un très chouette Moby Dick à découvrir sur le site, un podcast de France Culture. Voilà.
Très bien, bon conseil. Merci Jacques Brunstein d'être venu, rédacteur en chef, je rappelle, de Livre Hebdo. Voici l'hommage du jour. C'est Emma,
bonjour.
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux cheveux. Eh oui, vous avez bien entendu, aux cheveux. Une chronique plutôt risquée. Hein. J'en ai conscience, faire une chronique sur les cheveux autour de cette table, ce serait comme faire un sketch sur la motricité forte au Téléthon. Mais on va parler des cheveux tous ensemble. Allez, si, on y va. Daniel, s'il y a des blagues que tu comprends pas, je resterai disponible.
Non,
mais
je vais boire un café.
Je t'en prie. Alors je veux parler de ça aujourd'hui parce que c'est quand même une grosse partie de notre personnalité, les cheveux. Non, je veux dire, si Nagui demain revenait avec des dreads en mode « ça va les gars », ça aurait beau être Nagui, je serais quand même très tentée de lui répondre « ça va et toi, man ?» Pareil, si demain, Oldelaf arrive avec la boule à Z, on se dira qu'il a encore chopé des poux. Moi, mon rapport aux cheveux, oh là là, c'est une catastrophe. Mon rapport aux cheveux, je suis comme beaucoup de femmes, je me coupe les cheveux quand il y a un truc qui va pas dans ma vie. Voilà. Plutôt qu'aller chez une psy, parce que c'est trop cher. Je préfère me couper la frange toute seule, puis le regretter instantanément, puis aller chez un vrai coiffeur qui le rattrape, et que je dépense beaucoup plus d'argent que je n'ai pas là-bas. Argent qui, ça m'aurait moins coûté si j'étais allée voir une psy à la base. Et j'ai toujours fait ça. Quand j'étais petite, je m'étais fait une frange trop courte toute seule avec des ciseaux Maped à l'école. Ah merde, ah oui, j'ai cité une marque. Alors, faut que j'en cite deux autres. Ouais. Maped Cisox. Attends, c'est une dinguerie, je connais qu'une marque de ciseaux. Il n'y a que Maped. Putain, c'est une cata, ça devient une pub pour Maped cette chronique. Cisox. C'est coupe, voilà. Je m'excuse, pardon, auprès de l'ARCOM, c'était pas prévu, hein, promis, pour me faire pardonner, je vais faire une chronique sans gros mots. Comme ça, vous pourrez pas me casser les couilles. Donc je disais, je me suis coupée la frange toute seule avec des ciseaux, ma pète ciseaux, coupe, et c'était hideux, vraiment hideux, vous pouvez vous imaginer. Bah oui, vous pouvez vous imaginer. Bon, vous connaissez Tom Baldetti. Vous pouvez vous imaginer, là, c'était pire, d'accord? Et du coup, j'étais en panique et ma pote Charlotte m'a dit, coupe tout, puisque la frange est moche. Je l'ai donc rasée. Rasée au rasoir. J'avais 9 ans, d'accord? Au-delà du danger de mort que j'ai évité de peu, mais surtout, j'avais l'air complètement débile et accessoirement gravement malade. Ma mère, elle a hurlé. Daniel, il était genre, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Et puis, ma mère a pleuré quand elle m'a vue. Je voulais qu'on achète un bandeau. Elle m'a dit, non, tu vas insulter. Parce que je vous ai pas dit, mais ma mère c'est Carissa. Elle était là, genre 2-7, souffrance. Brrr. Bref, au final, j'ai acheté un bandeau et ça m'a sauvé la vie. D'ailleurs, j'aurais dû rendre hommage au bandeau plutôt. Attends, moi j'ai eu tellement de styles de coupe de cheveux complètement différents. Je suis passée par beaucoup de couleurs, d'accord. En quatrième, vraie anecdote, j'avais des dreadlocks blondes, ok. Après, attendez, un voyage en Inde, et c'est pas une blague. J'étais genre, je suis partie chercher les réponses en Inde et je reviens transformée, un petit peu perdue, mais le cœur ouvert, man. Et Nagui, il était là à Goa. T'as trop raison. Moi, mes cheveux, ils m'ont complexée quand j'étais petite. Ils étaient très bouclés. Et alors, heureusement, là où j'ai grandi, c'était plutôt la norme. Et puis, je suis arrivée en métropole. Et là, j'ai vu des adolescentes avec des brushings d'adultes qui payent l'ISF. Ils ont toujours été mes cheveux soit trop mousseux, soit pas assez droits. Enfin, jamais ce qu'il fallait. En réalité, je crois que l'identité de tes cheveux, c'est comme tout le reste. Plus tu cherches à fuir un de tes traits de caractère jeune, plus tu te rends compte adulte que c'est exactement ce après quoi tu dois courir. Ah. Aujourd'hui, ils ont. Merci, ma biche. Aujourd'hui, Ça fait grave réfléchir en plus. Aujourd'hui, mes cheveux, ils ont tellement été surlissés pour mieux glisser dans le moule qu'ils n'ont plus vraiment d'identité. Voilà. Et je trouve que ça me ressemble plutôt bien. C'est à ça que je renvoie.
Emma Beaujean.
Bravo.
Dans vos jours sur scène à Paris, c'est le mardi à 19h au Théâtre Le Pic et à Biarritz, ce sera le 30 janvier.
Yogi, Ishiro, Jaguar Sears, Mina, ce sont des marques de ciseaux, comme ça au moins on est tranquille. Tanguy Bassureau, de quoi vas-tu nous parler ?
C'est la journée spéciale écran. Daniel, ce matin, fait une chronique géniale à ce propos avec sa fille de 11 ans. Alors moi, à avoir à peu près cet âge, j'ai Tom ou Emma avec moi, mais bon, je travaille seul.
Brigitte Fossé, notre invitée pour parler de Moby Dick au Théâtre de Poche de Montparnasse. Elle est avec nous jusqu'à midi et demi. La bande originale avec Leïla Kadoubouzadi, Lisa Delmoitier, Mabo Jean, Tom Matetini, Tanguy Pasquereau, Niel Bora.
Salut Tom.
Et notre invité, Brigitte Fossé.
Bravo.
Ah oui.
France Inter, la bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Pendant que nous entendions les informations, Brigitte Fossé, d'un coup vous me disiez, bah voilà, on en revient à Moby Dick, on en revient à cette histoire de l'impérialisme américain, de la politique, des colonies. C'est étrangement d'actualité, vous avez le sentiment là, l'histoire du capitaine Ahab et de, oui, racontée par Ismaël.
Depuis deux jours seulement, mais ça vient de tomber, c'est quand même extraordinaire.
Non, ou depuis tous les temps, c'est-à-dire que c'est vraiment là où c'est dans la nature humaine, c'est ce que ça. Disait tout à l'heure Leïla sur le côté très spirituel, le combat de
l'homme face à la nature.
De l'homme, c'est ça.
Non, mais ce que je voudrais dire,
et de l'homme sur l'homme aussi,
c'est que, si vous voulez, c'est l'histoire d'une âme qui veut coloniser les âmes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le pouvoir finalement. C'est cette espèce de d'emprise sur les gens pour leur faire faire ce que vous voulez, oui, même si c'est toxique et même si c'est la mort.
C'est génial.
Simplement, pour ça, il faut un charme extraordinaire. Il faut envoûter les gens. Oui. Et c'est ce que fait Ahab.
Et c'est le populisme, enfin, c'est tout ce qui se passe dans énormément de
pays.
Non,
c'est l'ambition, Nagui. Voilà.
Non.
Et dans beaucoup de domaines.
Oui, c'est ça. C'est voilà. Ça.
Et par conséquent, si vous voulez, c'est d'actualité à cause de ça. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'un maître, ils ont besoin d'un idéal, ils ont besoin d'aventure, ils ont besoin de rêver. Et comme il n'y a plus de héros, malheureusement, depuis que Kouchner ne va plus mettre du riz partout, il faut en mettre. Il a fait rêver, lui, Kouchner, à un moment donné.
Il y a d'autres moyens de rêver que...
Oui, non, mais c'est quand même une aventure. Voilà, c'était une aventure d'être sur le bateau Lumière et tout ça. Moi, j'ai eu Gérard Philippe. Attendez, j'ai mis toute ma vie sur Gérard Philippe et Jean Villard. J'ai décidé d'avoir exactement la même vie qu'eux. Et qui on a aujourd'hui ? Qui on a ?
Il y a plein de gens. Il y a des activistes. Il y a beaucoup de gens.
Vous parliez de Paul Watson tout à l'heure. Il a entraîné aussi du monde avec lui pour la protection des animaux. Bah, non, mais je prenais l'exemple des baleines.
Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, on n'a plus...
Des gens manifestés pour sa libération.
On n'a plus de héros. Alors, il y a tout à coup divination de l'homme. Tout à coup, tout le monde est une icône. Alors, voilà, les gens se mettent à parler et quand on est d'accord avec eux, ça devient une icône. Alors, si on
trouve... Pourquoi vous nous engueulez, Brigitte?
parce que ça me révolte.
Ah, j'aime bien. Elle était énervée.
Quelquefois, on vient me voir et on me dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce problème-là, etc. » Mais je dis « Mais moi, je suis personne. Moi, je suis comme les autres. J'essaye d'apprendre, j'essaye de comprendre. Mais vous devez savoir. Eh bien, à quel titre ? Moi, je suis comédienne, je dois dire à quelqu'un chez quel docteur il doit aller, ce qu'il doit penser en politique. »
Est-ce que vous n'avez pas, Brigitte, vous n'avez pas le sentiment que, contrairement aux années peut-être 70, 80, où on demandait beaucoup l'opinion des Simone Signoret, qui étaient même engagés politiquement, Yves Montand aussi, même s'ils ont regretté ensuite leur engagement, et où les chanteurs, les acteurs allaient soutenir dans des meetings les politiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On a l'impression qu'au contraire, tout le monde est un peu frileux de prendre position pour défendre la liberté ou la manière dont l'Iran est en train de se réveiller en ce moment.
C'est autre chose. Bah. Moi, j'ai toujours mis, si vous voulez, mes luttes dans les droits de l'homme pour des associations humanitaires. Ça, c'est autre chose. Mais là, je parle du jeune. Je parle de l'ado qui a besoin
d'un repère.
Il cherche sa voix. Il cherche sa voix et tout à coup, il y a une personnalité qui lui apparaît comme Dieu. Et il va dire, je vais faire tout comme lui, je vais faire comme lui, etc. Et si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que Ismaël, qui est écrivain, qui est instituteur, qui est jeune, qui est fragile,
il y a ce moment extraordinaire dans la lecture.
Le héros donc de, où il explique du livre de Melville.
Il explique que Akab s'est emparé de son âme, que la haine d'Akab pour cette pauvre baleine, qui n'est qu'une baleine après tout, qu'on va tuer pour faire de l'huile d'olive,
d'olive, oui.
Chasser le naturel, il revient au galop.
Je sens que vous avez faim.
En fait, elle est naïve, cette baleine, elle joue son rôle de baleine. Et finalement, il pense que après, il pense comme Akab que c'est le mal absolu. Ce n'est pas le mal absolu, la baleine.
Mais en même temps, il y a quand même un message justement où c'est la nature qui sort gagnante de ce combat aussi.
Ben oui, elle sort gagnante, ah oui. Mais malheureusement, la nature humaine ne sort pas vraiment gagnante.
Moby Dick est lu par Brigitte Fossé, c'est au Théâtre de Poche Montparnasse, on en parle jusqu'à 12h30, voici Tanguy Passion.
Hier, Emma Beaujean, le quota jeune de l'émission, m'a parlé, malgré les trois générations qui nous séparent. Et j'étais désarçonné, parce que j'ai horreur des interactions sociales. En général, ça consiste à entendre des choses banales tout en se prenant dans la face des gouttelettes bourrées de virus. Si je devais avoir un seul ami, ce serait Zidane. Il ne parle pas. Quand il parle, on l'entend pas. Niveau détente, cet homme, c'est l'équivalent d'un massage thaï. Il en fait peut-être avec la tête, des coups de boule enfin maîtrisés. Et là, Emma, sur son téléphone, m'a montré le compte Instagram d'une dame qui a un chien hystérique. C'est-à-dire qu'elle se filme sur son lit et le chien vole au-dessus d'elle. Il fait des bonds de 4 mètres. Rachida Dati, quand elle voit Anne Hidalgo, mais en chien. Vous lui donnez une perche, il s'inscrit au JO de Los Angeles. Je sais pas ce qu'a ce chien, si c'est assis sur son collier anti-aboiement, ensuite à chaque mouvement de bassin, il prend une vibration qui l'envoie au plafond, à tel point qu'il dort dans le lustre et qu'il faut lui lancer ses croquettes une par une à la verticale. Mais bon, j'ai ri. Voilà, j'avoue, j'ai eu un moment lol. Mon coach en dépression, FX, François Xanax, m'a dit plus jamais ça. Hein, il y va de ton image, une vidéo de toi en train de rire se met à tourner sur le net, le public ne va pas te reconnaître. Donc je suis allé à la cantine de Radio France voir s'il n'y aurait pas des pots de saucisson pour me flageller. Et là, Chantal, une cuisinière que Nagui a payée pour qu'elle mette des merguez végétales à la place des merguez sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit,
évidemment,
m'a dit surtout tu devrais limiter les écrans. Là, j'ai hurlé, mais va te faire voir, Chantal. Tu vas faire quoi, hein? Tu vas me coller un faux duvet de moustache et me livrer à Jean-Marc Morandini en lui disant que je suis en troisième, Chantal? Puis je me suis mis à pleurer. Je fais une chronique sensible pour toucher les jeunes déconstruits. Là, Chantal m'a plaqué contre ses seins. Je fais une chronique qui peut aussi plaire au quinquagénaire vicieux. Pourquoi toujours écarter Daniel? Chantal, donc, m'a plaqué contre ses seins nus, qui étaient énormes. Je fais ça en même temps une chronique pour les boomers qui ont grandi avec les films X au cinéma. Bon, tout ça pour vous dire que je suis sur la brèche, en partie à cause des écrans. Je pense être trop fragile pour vivre les 1000 stimuli par heure qui me sont proposés. D'ailleurs, comme par magie, quand je prends un livre et que je m'isole un peu, je suis bien. Une fois dans une bibliothèque, j'ai fini en slip, tellement j'étais détendu. Le maire, dans la foulée, a suspendu les subvention, et depuis le lieu a fermé, il a été désenvoûté par un chaman. Pourquoi je vous parle des écrans? Oui, parce que France Inter organise une journée spéciale intitulée France Inter crève l'écran. Et c'est là qu'on réalise qu'Oldelaf fait des piges en dehors de cette émission. Oui. Il sera bien sûr éliminé le soir de la victoire du CCC, Comité contre les calembours, dirigé par Jean-Michel Fesse et Élodie Boudin. En fait, j'ai un avis nuancé sur les écrans. Ah, je trouve ça bien parce qu'on s'ennuie plus jamais. Si Emma ne m'avait pas montré la vidéo du chien qui vole, on n'aurait pas su quoi se dire et je me serais défenestré en criant encore un moment de gêne. B, je trouve ça pas bien parce que justement on ne s'ennuie plus et que l'ennui est une chance parce qu'elle ouvre la porte à un imaginaire foisonnant. Enfant avec deux boîtes de conserve et un fil, je faisais un réseau de téléphonie. Bouygues avait plus de contacts au départ, mais sinon c'est moi qui perçais. Et puis, on faisait du vélo, on cueillait des murs. Bon, on s'ennuyait pas mal, on ramassait des pelotes de réjection de hiboux dans les bois parce que les hiboux régurgitent. J'étais en Bretagne, donc en fin de soirée, les gens le faisaient aussi. Il y a certains amis, pendant 10 ans, j'ai cru que c'était des hiboux. Je leur lançais des mulots en leur disant mange. Je suis pas dans le c'était mieux avant, mais si je compare, je dirais qu'à l'époque on était dans l'action et qu'aujourd'hui avec les écrans, on est dans l'observation, on scrolle, on note, on commente, et parfois on oublie que la vie c'est du frottement, des regards, des moments, du vent dans les cheveux. À chaque fois que je passe sur un pont à Paris, j'ai envie de jeter mon téléphone dans la Seine parce que je sais que je serais mieux sans. Mais j'ai peur qu'il tombe sur le toit d'un bateau mouche, qu'un touriste l'attrape, récupère le numéro de Nagui, le vende 3000 euros à François Valéry et que celui-ci harcèle Nagui pour passer dans Taratata. Je sais que cet enchaînement d'événements est très peu probable, hein, mais j'ai peur quand même. Voilà. Et moi, sur les réseaux, les réseaux, on les vit pas pareillement les uns les autres. Et moi, je je gère ça pas très bien. Je vous le dis, hein, les réseaux me rendent malheureux parce que je me compare. Si je me mets à suivre Jérémy Ferrari, ça va me rendre triste parce que je vais me dire c'est énorme. Pas tant les salles qu'il fait que ses pectoraux d'ailleurs. Là, parce que là, il sort un film, la première image de la bande-annonce, il est torse nu. Bon, tu fais ça que si tu as un physique incroyable. Si un jour je fais un film, la personne sous une burqa au tout début, ce sera moi. Parce que je suis réaliste. Je vais d'abord acheter la burqa et ensuite réfléchir au scénario. Il est probable que ça se passe en Afghanistan, du coup ce sera pas forcément une comédie. Bon. Les écrans nous ont privés de l'ennui, de l'attente, du temps long, lire dans un parc, tous ces trucs. Hein, on est là tous à générer du contenu sur soi-même que en fait plus personne ne regarde. Les coachs TikTok te disent pas plus de 17 secondes ta vidéo, sinon les gens décrochent. Techniquement on est des perruches quoi. Oh, des graines à gauche, des graines à droite. Hein, nos auditeurs sont sur LinkedIn à devoir liker des posts intitulés « Comment devenir la meilleure version de soi-même dans le secteur de la compta ?» Puis ils se rendent sur Doctolib pour soigner leur burn-out parce que rien s'arrête plus. On est noyé sous la bouse numérique générée par des méga serveurs qui consomment les dernières ressources de la planète. Tout ça pour enrichir des boîtes, Meta, ChatGPT, qu'on s'était promis de boycotter parce qu'elles sont américaines et qu'on est fâchés. Mais on n'y arrive pas parce qu'on est accro, on est dépendant. Nous valons mieux que ça. Mon projet en tant que réac. Des huttes, un feu de camp, un soir on crame nos 06 et on se parle. Enfin vous. Moi j'ai horreur de ça.
Merci Tanguy Bateau.
Tanguy sur scène continue sa tournée. Il sera à Lille le 11 février et à Caen le 20 février.
France Inter crève l'écran toute la journée, tu viens d'en parler. Ça sera à nouveau dans Zoom Zoom Zen de 16 à 18h avec Mathieu Noël, puis Fabienne Sintès entre 19h et 20h. À 20h05, les petits bateaux de Camille Cronier et tout au long de la journée, différents rendez-vous et des reportages, notamment les pastilles présentées par Eva Rock où elle a donné la parole aux ados pour raconter leur rapport aux écrans. Nous parlons de la lecture du texte, du papier que Brigitte Fossé aura. D'ailleurs, concrètement, c'est un papier que vous avez en main ou une liseuse et un iPad?
Non, mais j'ai l'habitude, ça fait 20 ans maintenant que je fais des lectures. Et j'ai mon système, c'est-à-dire, c'est le vieux système. C'est des feuilles blanches, tout simplement. Et je les tourne. Et bien, si vous me donnez un cahier ou un truc avec des ressorts, je suis perdue. Tandis qu'avec les feuilles, je peux en même temps jouer la comédie, manipuler les voiles, chercher l'huile dans la baleine. Je bouge beaucoup dans la complicité de Stéphanie Cesson sur ce plateau.
Et des lumières et... de Jacques Rouvelle-Rolis, faut
oui,
le préciser.
J'allais juste en parler maintenant.
Incroyable.
Incroyable.
On est connecté.
Ah, complètement, oui.
Ma Brigitte.
Alors moi, j'ai connu Jacques dans des conditions magnifiques. j'ai connu Jacques au moment de L'homme en question de Félicien Marceau. Il faisait les lumières de cette pièce. Et on est devenus très amis. Et c'était avec Jean-Luc Tardieu et avec Roberto Platé. Et maintenant, j'ai fait cet été à Grignan une lecture sur la vie de Hildegarde de Bingen avec lui dans la nuit de Grignan. C'était merveilleux. Et là, pour Moby Dick, Stéphanie Tesson et moi, on a pensé que c'était l'idéal d'avoir comme capitaine de lumière ce type qui est vraiment un grand navigateur de la scène.
Et tout à l'heure, vous aviez choisi d'écouter Barbara. Il a mis en lumière Barbara.
On en a parlé beaucoup.
Johnny Hallyday, Charles Aznavour.
Il vient de fêter ses 60 ans de carrière. Il a fait une fête formidable, absolument extraordinaire. Toute la profession était là. Et il y avait un film sur sa vie, sur toutes les musiques, sur les vieilles canailles. C'était fabuleux.
On l'embrasse, Jacques Rouvelle-Rolis, qui vous met en lumière sur la scène du théâtre de Poche Montparnasse, donc pour la lecture de Moby Dick. D'autres événements culturels, Leïla. Je précise qu'il y a 11 représentations, il reste 10 représentations exceptionnelles de Brigitte Fossé sur scène.
On cherche un acteur américain qui aurait fêté en 2025 ses 100 ans. Il a un point commun avec notre invité Brigitte Fossé.
Gregory Peck?
Non.
Marlon Brando?
Non plus.
Paul Newman?
Absolument. Paul Newman, les yeux, ce regard, ce bleu, incroyable. Paul Newman qui s'est fait connaître en 58 par Une chatte sur un toit brûlant avec Elizabeth Taylor. Acteur, réalisateur, philanthrope aussi, il avait, on le sait un peu moins, il avait mis en place plusieurs associations, notamment une qui permettait à des enfants gravement malades de partir en vacances.
Et j'y participe de temps en temps.
Alors justement, j'en viens à vous, Brigitte Fossé, Paul Newman. C'est vrai que vous aviez sa photo sur votre table de chevet quand vous étiez petite?
Oui, ma vie est un roman.
Et que vous avez ensuite joué avec lui surtout?
Je l'ai regardé, ouais. Et j'étais sûre que j'allais le rencontrer. Et effectivement, 10 ans plus tard, je l'ai rencontré et j'ai tourné avec lui, avec Robert Altman.
Et vous dites alors que...
Buffalo Bill et les Indiens.
Non,
Quintet.
Ouais, Quintet.
Avec Vittorio Gassman, Bibi Anderson, Fernand Doré, Paul Newman.
Et vous dites que toutes les filles lui couraient après et que vous aviez mis au point une technique bien particulière que vous allez nous expliquer, Brigitte Fossé.
Tu veux dire qu'il s'est passé un truc entre
non,
les
pour
deux
pas qu'il imagine justement qu'il pouvait se passer quoi que ce soit. À vous, Brigitte.
Ben, en fait, ma petite copine Chaplin, avec qui je venais de tourner, m'avait dit il est inaccessible, on ne peut pas lui parler, etc.
Alors, Géraldine Chaplin. Ouais.
Voilà, Géraldine, cherchez son nom. Mmh. Et, parce qu'il y a Joséphine et tout ça. Ah, oui, oui. Et alors, je l'appelle. On avait 8 jours pour se connaître, tous ces acteurs-là. Parce que quand même, Altman, il aime bien faire la mayonnaise avec les gens. Donc, on est convoqué au Canada. C'est une aventure. Et c'est tiré de Borges, il n'y a plus que le combat pour la mort, et on vit dans l'ère glaciaire. Et en fait, il nous a fait venir avant pour qu'on soit confrontés au mois de janvier à moins 40, et qu'on marche tous les jours pour s'habituer à tourner avec la buée qui sort de la bouche. Et donc, on allait même le soir à la piscine, tous les soirs à de l'hôtel, et on sortait tous les soirs, c'était génial. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir, comme j'étais mariée avec lui dans le film, il fallait quand même qu'on parle un peu de ce qu'on allait faire. Alors je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu veux bien, espèce d'imbécile, toi qui es fanatique de...
Vous parlez à Paul Newman comme ça?
Oui, oui, oui.
Ok.
Oui,
comme une épouse, quoi.
En disant, est-ce que j'ai commencé avec des gros mots épouvantables en disant, emmène-moi au restaurant chinois parce que moi j'y connais rien. Alors j'ai fuck you et tout ça, des gros trucs comme ça. je faisais semblant que j'étais un mec, quoi. Tu vois. Mais à partir de ce moment-là, on a été très copains. Il voulait que j'aille toujours dans sa voiture, il voulait que j'aille dans sa caravane.
Je
lui tapais comme ça sur les épaules. J'ai toujours eu cette technique pour me défendre, de dire des monstruosités. Mais finalement, ça marche très bien. Ça marche très très bien.
Mais pardon, vous étiez secrètement amoureuse un peu de Paul Newman quand même ?
Pas du tout, justement.
Oui, oui.
Je l'admirais. Il ressemblait à mon papa.
D'accord, ok. Il y avait ce rapport d'âge.
Pour moi, c'était l'idéal de l'acteur. Parce que chaque fois que je le voyais jouer...
Non mais avoir sa photo sur chez soi, c'est...
Oui mais il est resté mon acteur préféré.
D'accord.
Jusqu'à mes 28 ans, c'est-à-dire de 14 à 28 ans, ça fait quand même 12 ans. Et finalement, un jour, Robert Altman m'a téléphoné... Et... Ah oui ?
Oui, de 14,
oh, pardon.
De 14 à 28 ans, pas loin de 14, mais c'est pas grave.
Vous êtes là.
C'est pas grave.
Une autre question ?
S'il te plaît.
Avec joie. On cherche une exposition qui va débuter au printemps 2026, qui met en scène des vêtements, les vêtements d'une personnalité connue notamment pour son style vestimentaire.
Johnny,
personnalité décédée. Nous sommes
Michael Jackson.
Nous ne sommes pas en France.
C'est pas Johnny. Hein.
Nous ne sommes pas aux États-Unis non plus. Nous ne sommes plus près.
En Belgique. David Bowie.
Marcello Mastroianni.
Non plus. Une personnalité connue pour ses couleurs dans ses tenues vestimentaires, toujours assorties d'un chapeau. Toujours assorties d'un chapeau.
Michel Houellebecq.
Personnalité disparue. Très très importante.
200
pièces. Absolument. La reine d'Angleterre. Les tenues d'Elisabeth II. Enfin, 200 pièces de sa garde-robe. Elton John, c'est pareil, c'est pas faux. Exposées à Londres. Mais on les a jamais vues ensemble, vraiment. Parce que là aussi, il y a une anecdote avec Brigitte Fossé. Et Elisabeth II.
Qu'est-ce que tu veux que je raconte, c'est toi ?
Non, c'est vous.
Vous n'avez pas dit fuck you à la reine de
Non, pas du tout. Non, mais c'était à l'époque de Jeux Interdits. Vous étiez une jeune fille.
Oui, dont j'avais 5 ans. Et
enfin, une femme.
On devait présenter un film avec Gérard Philippe, d'ailleurs. C'est là que j'ai rencontré Gérard Philippe et que j'en ai fait mon héros.
Encore ?
Oui.
Ah oui.
Ah, oui.
Chance, c'est Star
Wars. Vous avez beaucoup de héros, hein.
Mais c'est le premier, c'est le tout premier.
Okay.
Et donc, on arrive par une tempête monstrueuse avec ma mère en bateau. Elle me disait, on va jouer à la bataille navale. Et derrière, tout le monde vomissait, tout le monde était allongé par terre. Je disais, mais ça bouge un peu. Mais non, allez, F5. Alors, et finalement, on arrive là-bas. Elle me dit, repose-toi, parce que tu vas devoir faire quelque chose de très, 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 très important. Alors, il y a le type de... du protocole qui me réveille dans ma sieste et qui me vient et qui vient et qui me dit vous allez présenter un bouquet à la reine. Alors je m'habille rapidement, etc. On va répéter. J'ai dit mais c'est pas la peine de répéter, je sais très bien ce que je vais lui dire. Alors j'avais 5 ans. Hein.
Et vous vous souvenez précisément de ce moment, 5
oui,
ans?
Oui, très bien.
Je me souviens rien.
Je me souviens même avoir tété ma mère. Je m'en souviens très très bien.
5 ans?
Pas la reine. Complètement.
Oui,
complètement.
Bon, dis donc. Parfois ça dure un peu. Ouais.
Non, je vous assure.
C'est un peu long, surtout.
Oui, mais je vous assure, c'est vrai.
C'est pas toi qui t'es.
Enfin bref.
Oui, bref.
Finalement.
Ceci est une autre histoire.
Il me dit alors qu'est-ce que vous allez lui dire? Je lui dis et comment vous allez faire? Je fonce sur la reine comme ça, je lui prends la main et je lui dis How do you do? Alors bien non, c'est pas ça du tout.
Vous n'avez pas le droit de toucher à la reine.
Pas du tout, vous ne pouvez pas faire comme ça. Alors vous faites 1, 2, 3, vous mettez le genou par terre et là vous tendez le bouquet et si elle ne vient pas le chercher, vous ne bougez pas. Vous restez comme ça. Alors bon, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a dit, après, surtout, vous ne suivez pas la reine. Hein, parce qu'elle va monter l'escalier pour aller au cinéma, mais vous, vous ne suivez pas la reine. On ne suit pas la reine. Et pour moi, la reine, à l'époque, c'était la Reine des Neiges, quoi. C'était un roman que j'avais déjà lu, la Reine des Neiges. Et alors, je vois cette femme, c'était comme une fée et tout ça. Et bien qu'on m'ait dit de ne pas la suivre, je l'ai suivie et j'ai voulu lui prendre sa robe pour la... Voilà, à ce moment-là, le type du protocole m'a tiré en arrière, je me suis cassé la figure. J'étais vraiment très déçue, très déçue.
Mais vous l'avez vue jeune.
Voilà.
Mais elle était une fée.
Oui, ouais, elle était aimée par des millions de personnes. Brigitte Fossé sur scène pour Moby Dick et ses lectures donc au Théâtre de Poche tous les lundis à 19h. Également, vous donnerez des lectures florilèges à l'occasion du Salon du Livre de Forbach. Ça sera le 6 juin prochain. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Mais absolument, désolé pour nos auditeurs urophiles qui ont regretté que notre rubrique « Vengeons-nous avec du pipi » ne dure pas plus longtemps. C'est vrai que c'était bien, j'espère qu'on en reparlera. On parlera évidemment demain avec les frères.
Salut
Solidaires, absolument. Désolé pour nos auditeurs un peu naïfs qui ont découvert un Nagui hargneux, plein de colère et de haine, de rancune. Ah là 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 là, pose ce flingue, nom de Dieu, viens, on va faire un câlin, mon Nagui. Désolé pour tous nos auditeurs à table. Et oui, et suite à l'anecdote de Brigitte Fossé, comme quoi le casting de Jeux Interdits, elle était habillée d'une feuille de vigne et de tresses relevées sur la tête. Et Oldelaf a décidé que ce serait sa tenue de scène et de radio. C'est voilà, parti. Ce sera la même. En même temps, j'ai hâte de voir ça. Et bien sûr, désolé pour Brigitte Fossé qui, à l'occasion d'une anecdote de tournage, où on a appris qu'elle était en grande proximité avec des légendes comme Paul Newman et Gérard Philippe, est passé à Oldelaf et moi. Voilà. C'est la vie, Brigitte. Il ne faut pas nous en vouloir. C'est
merci, grave. Brigitte, d'être venue. Merci oui, mille merci. Fois pour nous
merci
avoir partagé votre passion, en tout cas. Et c'est sur scène, donc, au Théâtre de Poche Montparnasse.
Oui, il y a 3 spectacles sur la mer, actuellement, au Théâtre de Poche Montparnasse. Et c'est un endroit de création permanente. C'est incroyable. Il y a 12 spectacles en même temps. Et les gens se rencontrent. C'est toute une équipe. C'est vraiment une île. C'est une île où on cherche le théâtre ensemble, on le partage, on le mange, on le fabrique. C'est formidable. C'est comme vous.
Merci, merci Brigitte. Demain, les frères donc Thomas et Olivier Soliveres seront nos invités.